psaume 3, verset 1er. Voilà, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien, disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Voilà. Il m'a semblé intéressant de méditer sur ce psaume. Ça a été écrit donc par David, le roi David, à l'occasion d'un moment, un passage de sa vie extrêmement difficile pour lui. Certainement la plus grande ou une des plus grandes épreuves qu'il ait à vivre, c'est que son propre fils, Absalom, après des années à lui faire des problèmes, après des années à magouiller entre guillemets contre lui, se révèle et vient avec une armée pour prendre le trône de son père. Et David est bouleversé. Il est en fuite devant son propre fils. Je pense que quelquefois les épreuves arrivent des endroits où on ne s'attend pas. Ils arrivent par des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Et certainement que David avait eu beaucoup d'ennemis dans sa vie. Il avait combattu beaucoup d'ennemis dans sa vie. Et il savait ce que c'était que l'opposition. Mais là, il se trouve complètement démuni contre son propre fils. Il ne s'attendait pas. Il traversait une épreuve épouvantable. Il était âgé, fatigué, brisé. Et pendant qu'il s'enfuyait de Jérusalem, eh bien, il y avait deux catégories de personnes autour de lui. Il y avait ceux qui pleuraient de voir David dans cet état, et puis il y avait ceux qui le maudissaient, qui profitaient de cette occasion pour faire ressortir tout ce qu'ils avaient dans le cœur. Et ils maudissaient David. Et il n'avait plus la force pour réagir. Il était en fuite. Ça me fait penser à une histoire de voilier. Vous savez que bon, je suis un voileux, entre guillemets, donc j'aime bien la voile. Et en voile, j'ai souvent appris à faire attention aux éléments. Et quand il y a une tempête qui se déchaîne, quand elle est trop forte, lorsqu'on ne peut plus maintenir le cap, eh bien, il ne reste qu'une seule solution, c'est la fuite. Et le bateau se tourne et fait dos à la vague, et essaye de fuir. Et on met une toute petite voile devant, toute petite voile, très très solide. Si vous la touchez, c'est une voile qui est rugueuse, qui est épaisse. Ça s'appelle le tourmentin. Et c'est vraiment l'impression qu'on est dans la tourmente. David était dans la tourmente et il ne pouvait plus garder le cap. Il était en fuite. Et ce n'est plus lui qui maîtrisait. Et lorsqu'on est en fuite, on ne maîtrise plus sa direction. C'est le vent qui décide. C'est lui qui nous entraîne. C'est lui qui nous pousse. Et là, David était en fuite. Il était dans la tourmente. Et c'est une véritable débâcle. Parce que David abandonne Jérusalem. Il abandonne sa ville. Il abandonne la sécurité de ses murailles. Parce qu'il n'a plus confiance dans les habitants de Jérusalem. Parce qu'il ne sait pas si les habitants ne vont pas se retourner contre lui. Lui qui est roi depuis tant d'années, qui a mené tant de combats, il fuit. C'est une véritable débâcle. Il fuit vers le désert et il ne sait même pas où il va. Il ne sait même pas où il va. Et là, il se pose la question. Enfin, moi, je me pose la question, mais comment est-ce que David en est arrivé là? Et quelquefois, je pense qu'il est bon de s'arrêter, de faire comme dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, pause. D'accord, il se passe tout ça, d'accord, rien. Mais là, on va, à un moment donné, s'arrêter, on va prier, on va réfléchir et on va se dire, mais comment on est arrivé là? Dans l'Ecclésiaste, ce livre qui a été écrit par son propre fils, hein, l'autre, Salomon. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, qu'est-ce qu'il est dit ? Pleure, sois malheureux. Réfléchis. Réfléchis. Et ça, c'est important pour moi. Ce petit mot pause dans ce psaume est important. C'est en hébreu « shelah » qui veut dire « élever, exalter, sortir un petit peu les yeux hein, et puis les lever un petit peu vers le ciel, faire une pause, mais pas une pause terrestre, une pause élevée. » Alors que nous avons la description de tous ceux qui se lèvent contre David, qui lui disent « Il n'y a plus de salut pour toi !» David prend le temps de faire une pause, d'élever, d'exalter son Dieu. Au jour du malheur, réfléchis, tourne-toi vers le Seigneur et dis, pose-lui la question, mais comment j'en suis arrivé là ? Et là, quel contraste ! Quel contraste ! Et là, David arrive à réaliser et à dire ces mots. Mais toi, ô Éternel, ô Yahvé, ô celui qui est, celui qui était de toute éternité, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et cette expression de David du cœur va être le cœur de ma méditation ce matin pour chacun de nous. Tu es ma gloire. Mon bouclier, tu relèves ma tête. Premièrement, tu es mon bouclier. Dans le Nouveau Testament, le bouclier, c'est quoi ? Vous vous rappelez ? Dans l'armure du chrétien, le bouclier, c'est quoi ? C'est la foi. Le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du malin. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, notre bouclier, c'est notre foi. C'est ce qui correspond à nos convictions. C'est ce qui va résister. Le bouclier, c'est une arme de défense, de résistance. C'est le bouclier, c'est notre foi. Et c'est notre foi qui sera attaquée. Et en ces périodes, la foi des chrétiens sera attaquée. Mais nous en servirons comme un bouclier et nous avancerons toujours plus avec le Seigneur. Parce que nous prenons le temps de nous présenter devant lui ce matin pour être fortifiés. Dans l'Ancien Testament, le bouclier, c'est Dieu. Le bouclier, c'est Dieu. C'est Yahvé lui-même, celui qui nous protège, qui nous garde, notre forteresse, notre haute retraite. Une tour qui résiste. Notre bouclier, c'est l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est David dit qu'il ne va pas chercher ailleurs son bouclier, sa défense, c'est l'Éternel. Alors même s'il n'est plus à l'abri de ses murs à Jérusalem, même s'il marche dans le désert, son bouclier, sa défense, c'est l'Éternel. Et si nous sommes en fuite, nous devons réaliser que notre défense, c'est l'Éternel. En fait, le salut ne vient pas de nous. On pourrait dire qu'on peut se défendre avec foi, mais notre véritable défense, c'est Dieu. C'est Dieu qui se lèvera au dernier jour, qui prendra la défense des élus. C'est lui qui se lèvera dans notre situation et qui va nous bénir. C'est notre bouclier. Dans une vision il y a longtemps, très longtemps, bien avant David, Dieu s'est adressé à un homme et il a dit qu'il ne s'appelait pas encore Abraham, mais qu'il s'appelait Abram. Et il lui a dit, Abram, ne crains pas, je suis ton bouclier. Si vous trouvez ça dans Genèse 15, verset 1. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. C'est une des premières révélations de la personne de Dieu, c'est qu'il est un bouclier. Amen. Alléluia. Il est notre blindage. On dirait aujourd'hui le blindage. Hein? Il y en a, je ne sais pas si vous connaissez bien les films de science-fiction, mais il y en a certains, ils se forment un bouclier là. C'est pas, là, c'est de l'énergie, vous savez, autour d'eux là. Enfin, quand la balle, elle arrive, pim, elle rebondit parce qu'il y a un bouclier là. Souvent, c'est bleu, vous savez. Hein, quand on tape dessus, boum, ça s'allume, c'est bleu. C'est un bouclier, protection, un bouclier. L'Éternel est mon bouclier, amen. Imaginez que quand vous marchez dans la rue, vous êtes entouré par ce bouclier. Alléluia. C'est l'Éternel, votre bouclier. Hein, la science-fiction n'a rien inventé. Déjà, Abraham le savait, son bouclier, c'était Dieu. C'était Dieu. Celui qui va le protéger, David le sait, c'est Dieu lui-même. Il va prendre soin de sa protection. C'est une grande, grande vérité aussi pour nous, un bouclier. Dans ces moments d'angoisse, j'ai téléphoné hier à quelqu'un qui me disait « Mais je suis angoissé, je ne peux pas sortir, je suis tout le temps, j'apprends des mauvaises nouvelles, je suis angoissé. » Christ est notre bouclier, notre protection, notre champ de force. Il est là. On a quand même envie, hein, vous ne trouvez pas quelquefois de dire pause sur tout ce qui se passe là, et puis de passer à autre chose. Ah ben ce matin, on va passer à autre chose, on passe au Seigneur, alléluia, c'est bien mieux, alléluia, on se tourne vers lui. Retrouver la sérénité qu'a trouvé David à ce moment-là, lorsqu'il a fait pause, il a retrouvé la sérénité. D'un seul coup, ça s'est tout transformé, rien n'était changé, mais tout s'est transformé. Tu es mon bouclier. Deuxième révélation, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Dieu était la gloire de David. Ce n'était pas sa couronne qui était sa gloire. Ce n'était pas ses combats qui étaient sa gloire. Parce que sa couronne, il était en train de la perdre. Ses combats, il était en train de perdre le dernier. Non, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas la ville de Jérusalem, la ville de David qui était sa gloire. Puis qu'il était en train de fuir cette ville. C'était Dieu qui faisait la gloire, qui faisait sa gloire. Tu es ma gloire. Tu es ma richesse. Tu es ma réputation, tu es mon honneur, tu es ma dignité, tu es mon abondance, tu es tout ça. Quand dans ce mot la gloire, il y a tout ça. Tu es ma gloire. Tous ces mots sont contenus dans cette expression, tu es ma gloire. Ce qui fait notre gloire ce matin. Ce n'est pas notre belle église, même si elle a été refaite, s'il fait chaud. Vous n'avez pas trop chaud d'ailleurs, parce que moi je commence à avoir mort de chaud. Voilà, hop. Je vous pose la question et je n'écoute pas la réponse. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas les prédicateurs qui viennent, même s'il y en a des excellents, ce n'est pas eux qui font notre gloire. Ce n'est pas ce que nous avons vu, les miracles qui ont été accomplis au niveau au milieu de nous qui font la gloire. Ce qui fait notre gloire, ce qui fait notre richesse, ce qui accapare notre pensée, c'est Dieu. Tu es ma gloire. Il est ma gloire. Et même si on est traîné dans la boue comme David, si on est en train de perdre toute chose, eh bien, il continue à être notre gloire. Et même si on est faussement accusé, il est notre gloire. Il est notre honneur. Il est notre réputation. Si on perd notre réputation, eh bien, c'est Dieu notre réputation. Il est notre gloire. Il est notre pensée. Il est celui qui a le plus d'importance pour nous. Et même si nous ne pouvons plus nous réunir dans cette église-là, si on la ferme, eh bien, il restera toujours ma gloire. Alléluia. Et même si je suis traité comme un moins que rien, il est ma gloire. David était traité comme un moins que rien. Il disait, c'est pas grave. Ma gloire, c'est pas ça. Ma gloire, c'est Dieu. C'est pas grave, laisse-les crier, laisse-les m'insulter. Peut-être c'est Dieu qui leur a demandé de faire ça. Moi, de toute façon, ma gloire, c'est Dieu. Ma gloire, c'est Dieu. Et même si je suis un moins que rien, même si on va me chercher dans la boue, eh bien, une fois que Dieu m'a pris la main, eh bien, il devient ma gloire. Je suis son enfant. Maintenant, je suis enfant de Dieu. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, toute la gloire des hommes, on s'en fiche. On est enfant de Dieu et on est intéressé par la gloire de Dieu. Jean 1, chapitre 12, ce fameux passage de l'évangile de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, ce qui fait notre dignité, ce qui fait notre nature, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que nous étions avant. Ce n'est pas la profondeur de notre déscience ou la profondeur de notre élégance. Je ne sais pas. Ce n'est pas le passé, mais c'est ce que nous sommes destinés à être, qui sera notre gloire. C'est Dieu. Pour avoir part à la liberté, dans Romains 8, 21, de la gloire des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons dire comme David, « Tu es ma gloire ». Amen. Tu es ma gloire. Magnifique ça. Vous ne trouvez pas que c'est bien de dire ça? Alors, il faudrait un petit peu réaliser ce verset. Tu es ma gloire. Et si on rentrait vraiment dans ce verset tous les jours, eh bien, on aurait beaucoup, beaucoup de questions qui sauteraient. Beaucoup de questions qui nous sembleraient. Non, mais ce n'est pas grave ça, tout compte fait. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? C'est pas grave, Seigneur. L'important, c'est que je sache que tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Vous connaissez peut-être ce livre, ou certainement, ou ce film d'ailleurs, il a été repris en film, La gloire de mon père. C'est écrit par Marcel Pagnol. Bon, voilà, on est en Provence quand même, merci. Hein, voilà. Hein. Alors, le père de Marcel Pagnol, vous le savez, il était instituteur. Et à l'époque, l'instituteur, il savait beaucoup de choses. Et c'était quelqu'un de très important. Et le père de Marcel, il se sentait un petit peu au-dessus des autres. Et il se moquait sur le port de Marseille de ceux qui se faisaient prendre en photo avec des poissons. On appelait ça. Mais regarde-les. Je vous passerai les noms d'oiseaux. Hein. Mais avec ces poissons, ils se font photographier. Non, mais... Et puis, quelques temps après, voici qu'il va dans la petite campagne d'Aubagne. Et que là, il y avait un oiseau, une perdrix royale, la Bartavelle. C'était très dur à attraper. Il avait un fusil à deux coups. Et à un moment donné, il voit deux Bartavelles, pan, pan, il attrape les deux Bartavelles. Et il rentre tout fier au village. Et la première chose qu'il fait, c'est de se faire photographier avec ces deux Bartavelles. La gloire de mon père, c'était ses Bartavelles. C'était sa gloire. Pour David, sa gloire, c'était Dieu. Amen. Ce n'est plus la gloire de mon père, mais c'est le Père glorieux. Amen. C'est la gloire de Dieu, la gloire du Fils, la gloire de Jésus, la gloire du Père, la gloire du Saint-Esprit. Voilà ce qui est important dans ma vie. Et pour nous, ce matin, notre gloire, c'est Dieu. Notre gloire, c'est Dieu. Notre gloire, c'est Jésus. Notre gloire, c'est le Saint-Esprit. Le Père qui est notre gloire. Amen. Et je pense que si vraiment on faisait ce verset, vraiment nous l'attribuer complètement, si on rentrait complètement dans cette... On n'aurait plus honte de parler de ce qui fait notre gloire. Est-ce que vous avez déjà vu un pêcheur qui dit « Je ne sais pas, j'ai honte, j'ai attrapé un loup comme ça. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'ose pas parler de sa pêche? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un pêcheur qui dit « Sauf si vous allez sur le lieu de pêche et que vous lui demandez sa mort, il vous dira non, bien sûr. Alors qu'il est assis sur une glacière qui est pleine de poissons tout frais. Mais ça, c'est autre chose. Sinon, une fois qu'il est arrivé chez vous, il va vous sortir les photos. Hein, les poissons continuent à grandir après qu'on les ait pêchés, ça c'est sûr. Si Dieu est notre gloire, on n'aura plus honte de parler de Dieu, ça paraîtrait évident, ça sera naturel. Est-ce que ça vous est naturel, vous, de témoigner? C'est pas évident des fois. Dieu, tu es ma gloire. C'est Dieu qui est ma gloire. Et puis, troisièmement, parce que quand même, il faut penser qu'il y a un deuxième culte aussi. Tu relèves ma tête. tu relèves ma tête. Là, on peut dire une chose, c'est que Dieu, David avait la tête baissée. Il marchait la tête baissée. Et il ne voulait même pas voir les gens qui lui lançaient les pierres, qui l'injuriaient. Il marche la tête baissée. Mais il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et quelques jours plus tard, effectivement, David va revenir à Jérusalem. La tête haute, la couronne bien en vue. Il est à nouveau le roi de Jérusalem. Tu relèves ma tête. On retrouve cette expression plusieurs fois dans la Bible. Bon, on aurait pu étudier tous les cas, mais je veux vous en rappeler quelques-uns. L'histoire de Joseph, ce Joseph qui est en prison et qui voit arriver deux personnes importantes d'Égypte qu'on jette en prison suite à une affaire dont on n'a aucun renseignement d'ailleurs. C'est le panetier. Vous vous rappelez de cette histoire, hein ? Et les chansons. D'accord ? Le chef des panetiers et le chef des chansons. Des gens importants qui étaient là pour surveiller la nourriture de Pharaon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a peut-être fait une indigestion, Pharaon, mais se retrouvent tous les deux en prison. Et vous connaissez l'histoire, ils ont tous les deux un songe, et Joseph va interpréter les songes. Le premier va être rétabli dans sa charge, et le deuxième va être exécuté. Et il dira au premier, bien sûr, « Souviens-toi de moi quand tu seras ». Et ce qu'il est écrit au verset, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, vous le chercherez, voilà. Au verset 20 du chapitre 46, voilà. Le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons. Il éleva la tête, c'est-à-dire qu'il va le sortir de prison et il va le rétablir dans sa charge. Bon, il a élevé la tête aussi du chef des panetiers, mais ça, c'était pour le pour enlever sa tête après. Voilà. On a aussi un autre passage, peut-être que je vais le lire, dans Deux Rois. Chapitre 25 et verset 27. Alors, ça se passe vraiment à la fin de l'histoire du royaume de Juda, lorsque eh bien, tout le monde est emmené en captivité. Hein. La 37e année de la captivité de Jojaquin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquim, roi de Juda, et le tira de prison. Regardez ce qui se passe encore. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Jojaquin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi, pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Ici, on a vraiment une description de ce que ce roi-là a fait à Jojaquin. Alors, l'histoire de ce roi Jojaquin, elle est triste parce qu'il est devenu roi, il avait 18 ans. Pendant 3 mois, il a fait ce qui est mal, mais ça n'a pas été long, hein, il n'a pas eu le temps de se repentir, dirons-nous. Et puis, il a été amené en prison. Et la Bible nous dit qu'il est resté 37 années dans la captivité, dans la prison. Il y a eu le temps d'être oublié, oublié, oublié. Et on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, un nouveau roi sur Babylone, Évil-Mérodac, je ne sais pas s'il intervient ailleurs qu'à dans ce passage, va élever la tête de Jojaquim. Il va le sortir de son trou. Ça fait 37 ans qu'il est prisonnier. Il y a de quoi se désespérer. Mais je trouve formidable ce passage parce qu'il a tellement de points communs avec ce que j'ai pu vivre moi. Même si je n'ai pas attendu 37 ans, je sais qu'à un moment donné, lorsque je me suis converti, J'ai vécu un petit peu ce qu'a vécu, et vous avez peut-être vécu aussi, certainement aussi, vécu ce qu'a vécu Jojaquin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va relever notre tête. C'est vraiment ça. Il va nous sortir de notre prison. Quand on nous sort de prison, c'est qu'on efface notre condamnation. Et Dieu dit que Christ a effacé notre condamnation à la croix. Et il prend notre vie qui n'a pas de valeur. La vie de Jojaquin, c'était rien. C'était 3 mois de règne et 37 ans de prison. Et il va la rétablir, il va le rétablir, il va même le mettre au-dessus. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Nous, ses enfants, nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. Mais il est allé nous chercher dans notre boue. Il nous a sortis, nous a mis un vêtement neuf, le vêtement de justice en nous pardonnant. Il nous a nourris avec sa parole. Il nous donne en abondance. Et j'ai la voix qui part, excusez-moi. Il est là, il nous donne avec grâce. Il pourvoit et il nous fait une promesse. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est notre histoire, l'histoire de Jojaquin. C'est notre histoire parce qu'on ne naît pas chrétien. On le devient à un moment donné. On est touché par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. On réalise qu'on a vraiment besoin d'être relevé et d'avoir la tête relevée. C'est notre expérience première. Jojaquin, c'est comme s'il se convertissait. C'est une nouvelle naissance pour lui. Alors pourquoi parler cela ce matin? Pourquoi vous parler de relever la tête? Parce que je crois que Dieu veut absolument relever notre tête ce matin. Il y en a certains parmi nous qui ont été abaissés. On leur a retiré des choses. Et puis, il faut réaliser que Dieu veut relever ta tête, te rétablir dans ta charge, comme Jojaquin. Quand il s'asseyait à la table du roi, il était lui aussi un roi. Vous avez noté ça? Lui aussi, il était un roi. Et lorsque nous asseyons à la table de notre Père, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous ne savons pas ce qui va se passer. En un an et demi, je trouve que les choses ont tellement changé autour de nous. Il y a un an et demi, personne n'avait entendu parler des églises évangéliques, ou presque, si ce n'est nous lorsque nous témoignons. Mais depuis, les lois, les gouvernements, les ministres, les députés, tout le monde s'est mis à nous taper dessus. Depuis la porte ouverte, il y a moins d'un an, jusqu'aux dernières déclarations du ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu a un projet pour vous. Il a un projet pour moi. Il veut relever notre tête. Il veut relever notre tête. Et toute ma prédication, elle veut arriver là. Dieu veut relever ta tête. Dieu veut te sortir de ton doute peut-être, de ta prison, je ne sais pas. Vous savez, relever sa tête, ça peut être appliqué dans tellement de situations différentes. Relever la tête. Ce qui nous paraissait encore impossible en France, il y a un an et demi, nous le voyons s'accomplir sous nos yeux avec une rapidité que nous n'avions pas vu venir. Mais ce n'est pas grave parce que tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es ma gloire, Seigneur. Et tu veux relever notre tête. Oui, il y a des menaces. Oui, il y a des nuages. Mais ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il avait envie de faire avec nous. Avec toi, avec ta vie. Alors ce matin, relève la tête. Relève la tête parce que Dieu te dit, je suis avec toi. Finissons cette lecture. De ma voix, je crie à l'Éternel et il répond de sa montagne sainte. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Ce verset a été mis en chanson, je le chantais à la colonie quand j'avais 18 ans. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais aujourd'hui, je suis très très content de me l'attribuer encore plus. Très heureux de pouvoir le vivre, de pouvoir le faire vivre ce verset, et de pouvoir dire, il est votre gloire, votre bouclier, et il relève votre tête. Amen. On va prier, s'il vous plaît. On va demander à Dieu sa bénédiction.